France Inter.
Radio Star Berlin.
It's morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20. Christelle Rebière.
Un jour dans le monde, un jour au Soudan, dans ce pays ravagé depuis un an par la guerre, c'est l'histoire d'un conflit oublié. Même la conférence d'hier de 14 pays organisée à Paris pour collecter de l'aide est presque passée sous les radars à cause de la tension au Proche-Orient.
Aujourd'hui, d'importants moyens ont été mobilisés grâce à vous. Et au total, nous pouvons annoncer que plus de 2 milliards d'euros seront mobilisés en faveur des femmes et des hommes du Soudan.
2 milliards d'euros pour un pays au bord du gouffre, c'est une aide d'urgence d'abord pour une population affamée, assoiffée, persécutée. La guerre qui s'est déclarée il y a un an tout juste entre l'armée du général Al-Bourhan et les FSR, les paramilitaires de soutien rapide de son ancien adjoint devenu ennemi, le général Daglo, a fait au moins 15 000 morts, 8,5 millions de personnes ont été déplacées pour fuir les combats et une violence aveugle, imprévisible. La plupart des infrastructures du pays ont été détruites, les trois quarts des hôpitaux, et on estime que 25 millions de Soudanais ont besoin d'aide, soit la moitié de la population. Bonsoir James Reynolds.
Bonsoir.
Et merci d'être en direct de Genève. Vous êtes le directeur adjoint pour l'Afrique du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Alors, vous avez participé hier à la conférence de Paris. Qu'est-ce qui, pour vous, finalement, est le plus important, le niveau d'aide collectée ou la médiatisation ?
Je pense qu'il y a différentes choses. C'est clair que c'est un conflit qui dure maintenant depuis exactement une année, qui a fait effectivement des ravages dans le pays. Les Soudanais, les Soudanaises en souffrent beaucoup. Donc je pense que c'était important de ramener l'attention internationale sur le Soudan. Et effectivement, dans ce sens-là, la conférence était très bienvenue. Je pense que si on regarde le niveau de participation des pays bailleurs, les pays voisins du Soudan, les acteurs internationaux onusiens, le CICR, entre autres, c'était réussite. Au niveau du financement, c'est clair, on a besoin de ressources pour agir. Et les engagements faits par les différents acteurs hier sont effectivement les très bienvenus. Il faut transformer un engagement rapidement, ça c'est clair aussi. Je pense qu'il y a un facteur de temps dans cela. La saison des pluies commence et la période de soudure. Pour la partie de la population rurale, donc c'est effectivement, il n'y a pas de temps à perdre pour transformer ces pledges en cash, entre guillemets.
Il faut agir vite, hein, vous dites. Selon les Nations Unies, le Soudan est en train de vivre la plus grave crise alimentaire au monde et peut-être aussi la pire jamais connue. Est-ce que vous faites le même constat aujourd'hui ?
C'est difficile d'avoir les données précises, mais il est clair que la situation en insécurité alimentaire est très très grave. Je pense que c'est le plus grave en Afrique, en tout cas actuellement, et probablement au niveau mondial. On voit, comme vous l'avez dit en introduction, 8,6 millions de personnes, de Soudanais déplacées de leur propre résidence. Alors forcément, ils ont moins d'accès aux biens, à la nourriture. Donc oui, c'est très très grave. Il est difficile d'obtenir des données précises, comme je disais, et je pense que la situation varie. Il y a des poches où vraiment on est dans une situation presque catastrophique.
Par exemple,
il y a d'autres endroits. Je pense que c'est souvent les zones les plus affectées par le conflit sont aussi les zones où la population est plus dans le besoin en termes d'alimentaire.
C'est-à-dire la capitale, c'est-à-dire le Darfour.
Oui, je pense qu'on peut parler de la capitale, Khartoum. Des parties de Darfour, dans l'ouest du pays. Dans le sud, la zone dite Kordofan aussi est assez affectée. Mais même dans d'autres zones, on voit des... C'est une population qui, on estime peut-être que le GDP, le BNP a chuté de 12%. De 12% en 2023, probablement de 20% de plus en 2024. Donc c'est des baisses énormes.
Oui, mais c'est un pays qui s'effondre en fait, parce que même les infrastructures sont complètement détruites. Il n'y a plus d'économie. Comment on se nourrit aujourd'hui quand on est soudanais ? Comment trouve-t-on de la nourriture ?
Je pense que ça varie beaucoup selon l'endroit où on se trouve. Probablement la moitié ou entre 40 et 50% des cultivateurs n'ont pas pu cultiver comme ils auraient fait autrement. Faire la récolte va être difficile aussi. Donc je pense qu'il y a une production alimentaire qui en chute. C'est un pays qui produisait peut-être 2/3 des céréales dont ils avaient besoin avant cette guerre.
Oui.
Si on en produit que la moitié, bah forcément il y a soit des importations commerciales, soit de l'aide humanitaire, ou une combinaison des deux idéalement.
Et comment les aidez-vous, vous, concrètement ? Alors je crois que le CICR est implanté dans le Darfour et à Port-Soudan. En ce moment, vous n'êtes plus à Khartoum, hein ?
On n'a pas actuellement une équipe à Khartoum, vu la situation sur le plan sécuritaire, mais on arrive à travailler à l'ouest et à l'est du pays.
Alors, qu'est-ce que vous leur fournissez?
Je pense qu'on vise effectivement de soutenir les structures de santé avec les livraisons de médicaments pour que les structures de santé puissent continuer à tourner.
Oui.
Nous essayons aussi d'agir en tant qu'intermédiaire neutre, d'offrir un espace en dialogue constant avec les deux belligérants pour dire, OK, on a besoin peut-être un technicien a besoin de réparer un système d'eau dans une ville. On peut garantir, entre guillemets, la sécurité d'une équipe pour aller le réparer, pour éviter que ces systèmes-là s'effondrent complètement.
Parce qu'il y a aussi un problème crucial d'accès à l'eau en ce moment au Soudan.
Oui, effectivement. Je pense qu'on peut dénombrer peut-être presque 2 millions de personnes où on a essayé d'aider pour rétablir ou maintenir un accès à l'eau potable. Là aussi, je pense qu'il y a les systèmes en milieu rural et les systèmes en milieu urbain sont assez différentes, mais ça reste crucial. Mais c'est un peu sur tous les plans, hein, que ça soit l'accès à la nourriture. Peut-être la moitié des fonctionnaires du pays n'ont plus de travail, plus de revenus pour leur famille non plus. Donc c'est vraiment un peu sur tous les plans.
En fait, c'est une situation absolument chaotique où on dit même que les marchés sont vides parce que les habitants n'osent même pas sortir à cause des snipers. Parce que c'est une sale guerre, il faut le dire.
C'est une guerre qui a un impact catastrophique pour sa population. Je pense même dans une ville comme Khartoum, je pense qu'il y a des quartiers où on peut pas dire que la vie continue normalement, mais qui continue à fonctionner avec les commerçants qui arrivent à tourner. D'autres qui sont proches d'une ligne de front, et c'est des lignes de front qui bougent aussi. Donc il n'y a pas vraiment de stabilité dans la durée, nulle part. Donc voilà, l'image varie selon l'endroit, mais c'est très négatif partout, effectivement.
Alors, restez avec nous, James Reynolds, restez avec nous, on va poursuivre cette conversation, mais nous sommes aussi en ligne avec Elliot Brachet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'un des correspondants de France Inter qui connaît le mieux cette région. Vous étiez installé au Soudan pendant 3 ans. Vous avez dû quitter le pays au démarrage de cette guerre il y a donc un an pile. Aujourd'hui, vous nous parlez depuis le Caire. Où en est le conflit soudanais aujourd'hui ? Quelle est la situation sur le terrain, Elliot ?
Alors si on regarde une carte du Soudan, le pays est divisé en 2 zones approximatives. À l'ouest, les paramilitaires du général Hemeti ont conquis la quasi-totalité du Darfour. Ils avancent dans la région du Kordofan, au centre du pays. Ils tiennent toujours de larges pans de la capitale Khartoum. Et en décembre, ils ont pris le contrôle de la Gezira, une région qui borde le Nil, réputée pour ses terres fertiles. De l'autre côté, l'armée régulière du général Burhan est cantonnée plutôt à l'est du pays. Elle ne tient plus qu'une fraction du territoire soudanais, coincé entre le Nil et la mer Rouge, de la frontière égyptienne au nord et à la frontière éthiopienne au sud.
Donc depuis un an, le rapport de force penche plutôt en faveur des troupes de Hemeti et de la milice paramilitaire.
Oui, on peut dire qu'elles ont été plus efficaces sur le champ de bataille. Les forces de soutien rapide sont plus mobiles, mieux équipées, mieux entraînées que l'armée régulière vieillissante. Les troupes de Hemeti ont notamment bénéficié d'un soutien militaire venu de la milice russe Wagner via la Libye ou la Centrafrique, mais surtout de la part des Émirats Arabes Unis qui ont livré de l'armement via le Tchad. Néanmoins, depuis le mois de janvier et pour la première fois depuis un an, les forces armées du général Burhan ont repris l'initiative. L'armée soudanaise qui est soutenue soutenue entre autres par l'Égypte, l'Iran, la Turquie, le Qatar, reprend du terrain dans la capitale, notamment grâce à son aviation et à ses drones. Elle a enchaîné quelques victoires qui ont suscité un regain de morale au sein des troupes régulières et un soutien croissant de la population dans les zones libérées du joug des paramilitaires.
Les lignes de front ne sont pas claires, elles n'ont pas beaucoup évolué en un an. Cette situation militaire presque dans l'impasse aujourd'hui accroît donc chaque jour les souffrances des civils.
Oui, ce qui est assez unique, c'est que les deux camps, enfin, multiplient les crimes de guerre contre, en fait, leur propre population qui est prise entre deux feux. L'armée régulière, par les airs, réalise des bombardements très coûteux en vie civile. De l'autre côté, les forces de soutien rapide multiplient les exactions, les pillages, les exécutions sommaires et les viols de masse. Mmh. Il y a une autre donnée qui est très préoccupante, c'est le recrutement massif de gré ou de force de milliers de civils par les deux camps. On assiste à une milicisation du conflit avec de nombreux groupes armés, souvent peu disciplinés. Et ce qui pousse le pays au bord de la guerre civile, car ces recrutements se font souvent sur des bases ethniques, ce qui fait craindre que même si Burhan et Hemeti venaient un jour à signer un accord politique ou militaire, le conflit, lui, pourrait s'enliser plus longtemps.
Merci, Elliot. Je reviens vers vous, James Reynolds, vous qui êtes du Comité international de la Croix-Rouge. Selon l'ONU, dans les 5 prochains mois, près de 5 millions de personnes pourraient plonger dans une insécurité alimentaire catastrophique. Déclarer l'état de famine, ça pourrait changer quoi ?
Je pense que ça pourrait attirer encore plus l'attention.
Mais concrètement, ça change quelque chose ou pas ?
Je pense que ça change pas forcément quelque chose pour monsieur ou madame Lambda dans un village au Soudan. Je pense que ça devrait, comme je disais, attirer l'attention, attirer un financement, encourager les partis de faciliter l'accès aux humanitaires et l'accès pour l'aide humanitaire partout dans le pays, sans politisation de cette aide.
Il y a plusieurs millions de personnes qui ont fui les combats. Certaines ont fui, entre autres, vers le Tchad. Le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, qui était à Paris hier, se disait favorable à des couloirs humanitaires sécurisés sous l'égide des Nations Unies. Vous aussi, j'imagine. Mais est-ce que c'est possible de le mettre en place ? C'est toute la question.
Je pense que c'est difficile. Je pense que la situation dans les pays voisins est effectivement extrêmement difficile. Notamment, mais pas uniquement, le Tchad et le Soudan du Sud ont pris énormément de réfugiés. Nous sommes en contact constant avec les autorités à Port-Soudan, oui. Avec les forces de soutien rapide plutôt dans l'ouest du pays. Mm-hmm. Et je pense les acteurs, le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, et les autres agences onusiennes, oui, le sont aussi.
Oui. Donc il faudra négocier avec eux au cas par cas. Et pour l'instant, j'imagine, c'est encore extrêmement compliqué. Merci en tout cas, merci James Reynolds d'avoir été l'invité d'Un Jour dans le Monde et d'avoir fait un point très complet. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint pour l'Afrique du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Bonne soirée.
Le 18-20, Christelle Rebière. Sur France Inter.
La suite ce soir se passe dans la moiteur des îles Tuamotu en Polynésie. On suit toujours le parcours du Plastique Odyssée, ce bateau qui collecte des déchets en mer pour les recycler et qui, au passage, vous l'entendrez, éduque aussi les élèves. Pour aller jusqu'à 19h, Kevin Dufraîche sous les radars.
Au Kenya, où les hôpitaux sont au ralenti depuis un mois puisque les médecins sont en grève.
Le Monde à 18h50 avec vous, Frédéric Saïs. Bonsoir.
Bonsoir Christelle. Pourquoi l'Espagne est devenue le pays le plus pro-palestinien d'Europe ?
Et Caroline, au pays des 27, Caroline Gillet, bonsoir. Bonsoir. Vous suivez qui ce soir ?
Ce soir, on parle avec Amandine Lebelec, 29 ans, qui mène des enquêtes pour la médiatrice de l'UE. Mais elle sert à quoi, la médiatrice ?
Oui, bonne question. À tout de suite. Pour l'instant, on part dans un pays qui a quitté l'Europe, l'Angleterre, a retrouvé le groupe The Smile, qui compte deux ex de Radiohead. Un extrait de leur dernier album sorti en janvier, Wall of Eyes.
You're on your own.
Reportage ce soir, c'est la suite de notre croisière à bord du Plastique Odyssée, ce bateau laboratoire de 39 mètres qui sillonne les mers du monde en quête de solutions pour réduire la pollution plastique. Deuxième épisode donc, et on fait escale dans l'atoll d'Apataki, dans l'archipel des Tuamotu en Polynésie française. Sur cette petite île de 20 km carrés et à peine 450 habitants, les déchets sont triés, mais soit ils finissent dans une décharge près du lagon, soit ils sont envoyés à Tahiti pour y être enfouis. Alors, c'est l'occasion d'accueillir de jeunes élèves pour les sensibiliser. Un reportage de Quentin Pommier et Marco Bédé.
Qui en écoute sur le bateau ?
Ça fait un mois que les élèves de l'école primaire d'Apataki ont appris la venue du Plastique Odyssée dans leur atoll. Aujourd'hui, c'est le grand jour, ils vont pouvoir visiter le navire avec Romita Vatahi, leur maîtresse.
On regarde tout le parcours, donc on étudie le bateau, voilà. Ils sont heureux de monter à bord.
Déjà, je me présente. Moi, je m'appelle Laurence et je fais partie de l'expédition de Plastique Odyssée. C'est un bateau français, mais moi, je suis canadienne. C'est pour ça qu'il y a un petit accent différent. Ça se peut que si vous ne comprenez pas tout, des fois, vous pouvez me poser des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous connaissez la mission du bateau? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on fait, nous?
On recycle le plastique.
On recycle le plastique, OK.
Vous fabriquez des carreaux, des étoiles.
OK, génial. Oui, c'est exactement ça. Donc, tous ces objets, c'est possible de les faire avec nos machines. Est-ce que dans le bac ici, vous reconnaissez des déchets qui vous sont familiers?
Oui.
Bouteilles.
Okay. Oui, tout à fait.
C'est clair.
Là, maintenant, on va te suivre.
OK, parfait. Donc, on s'en va par là. Oui.
Là, je suis kirte. Ouf.
Oui.
Qu'est-ce que c'est?
Ça, c'est une carte. Et ça, c'est des ondes qu'envoie une antenne et qui nous reviennent. Donc, c'est plus fiable.
Donc, celui qui vient nous faire l'explication, c'est Pierre-Louis. Lui, il s'occupe de tout ce qui est en lien avec la navigation et la sécurité du bateau.
Après un tour par l'atelier, les différents lieux de vie et la passerelle où se trouve le commandant, les enfants descendent du bateau et entonnent une chanson, comme pour remercier les équipes du Plastique Odyssée. De retour à terre, la maîtresse et ses élèves regardent les photos prises pendant la visite. Les enfants se saisissent ensuite de crayons de couleur et de feuilles.
On a compris ce qu'il fallait faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dessiner?
La machine à broyer.
La machine à broyer. Varia, doucement, concombre.
Le fait de revenir sur les noms des machines et leurs fonctions, ça leur permet en fait de se souvenir et d'apprendre en fait toutes les différentes étapes pour la transformation des déchets. Ici, sur Apataki, on va parler de récolte et puis de tri, mais on ne voit pas la transformation, parce qu'on ne voit pas pourquoi il faut trier, on va mettre dans la même poubelle hein, qu'on va mettre sur ta ordure. Mais là, finalement, on va bien trier, parce qu'on peut en faire quelque chose. Ils ont pu toucher, ils ont pu voir, les chaises, ils se sont assis dedans, alors que c'était des chaises recyclées, hein, le plastique est recyclé. Ils ont vu, en fait, tout le cheminement que le plastique peut avoir. C'est beaucoup plus concret, ça. On ne reste pas dans l'abstrait.
Après l'école, direction le quai, pour saluer une dernière fois le Plastique Odyssée.
Oui, c'est le commandant.
Tu peux faire la corne de brume?
Je te fais la corne de brume.
Oui, monsieur. On fait la corne de brume.
Et prochaine escale demain à Tahiti. L'actualité passée sous les radars avec Kevin Dufraîche. Nous sommes d'abord au Kenya où les médecins sont en colère.
Oui, tellement qu'ils sont en grève depuis maintenant plus d'un mois. On parle ici des soignants qui exercent dans les hôpitaux publics. Ils manifestent régulièrement depuis le début de leur mouvement, malgré les interdictions du gouvernement. La justice kényane a même ordonné la suspension de leur grève et a demandé au gouvernement d'ouvrir des négociations. Mais pour l'instant, c'est l'impasse totale. En fait, les médecins kényans demandent des hausses de salaire et plus d'embauches, empêchées selon eux par la politique d'austérité lancée par le président William Ruto. Nous devons vivre selon nos moyens, répète le chef de l'État, qui n'a fait que de maigres concessions pour l'instant, insuffisantes pour les grévistes. En attendant, les 57 hôpitaux du pays tournent au ralenti. Ils sont pratiquement vides pour certains. Les patients sont renvoyés chez eux, faute de pouvoir être pris en charge. Certains sont donc obligés de se tourner vers les cliniques privées très chères.
Nous voici en Géorgie, où là aussi la contestation s'installe.
Oui, mais sur un tout autre sujet, contre une loi sur, je cite, les agents de l'étranger. On en a déjà parlé ici, un texte inspiré par la législation en vigueur en Russie. Le parti qui gouverne en Géorgie est connu pour ses positions plutôt favorables, disons, à Moscou, ce qui fait craindre des atteintes à la liberté de la presse, à la liberté d'expression, des opposants politiques aussi. Hier, comme la semaine dernière, 10 000 manifestants se sont rassemblés dans la capitale, Tbilissi. C'est beaucoup dans un pays de 3,7 millions d'habitants. Et puis l'examen de la loi a commencé au Parlement géorgien. Et hier, ça a donné cette scène. Un député de l'opposition qui assène un violent coup de poing au visage du co-rédacteur de la loi qui était en train de s'exprimer à la tribune. S'en est suivi une bagarre générale au sein de l'Assemblée. L'an dernier, le gouvernement géorgien avait renoncé à cette loi après de grandes manifestations.
I really believe that the Milano
Nous sommes en Italie avec un changement de nom.
Oui, ce qu'on entend là, c'est la présentation la semaine dernière du dernier SUV électrique signé Alfa Romeo, qui devait à la base s'appeler Milan, donc en hommage à la ville où la marque est née il y a plus d'un siècle. Sauf que ça ne plaisait pas du tout au ministre de l'Industrie, Adolfo Urso, parce que le modèle ne va pas être fabriqué en Italie. Une voiture appelée Milano ne peut pas être fabriquée en Pologne, dit-il, le tout sur fond de tension entre Rome et Stellantis, la maison mère d'Alfa Romeo, puisque le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni demande au groupe automobile de relocaliser ses productions en Italie. Le Milano s'appellera donc finalement Junior pour éviter tout type de controverse à justifier la marque.
Enfin, un petit droit de suite, Kevin.
Oui, hier, je vous parlais de ce mouvement de protestation des joueuses de foot pro au Brésil contre le retour de l'entraîneur de Santos, accusé de harcèlement sexuel et moral par une vingtaine de femmes. Eh bien, il a démissionné hier pour préserver sa famille, son intégrité et le club, a écrit Santos dans un communiqué.
Et ça nous rappelle un peu l'histoire de son homologue espagnol il y a quelques
mois. Oui, le président de la fédération, absolument.
Absolument. On vous laisse partir avec un classique du rock des années 60, Gloria par le groupe VEM, et dire qu'au départ c'était une phase B.
comes around here just about midnight. She make me feel so good, love. I wanna say she make me feel alright. Comes walking down my street. Watch you come to my house. You knock upon my door. And then you come to my room. And you make me feel alright.
Gloria, la version originale de Van Morrison, enregistrée en 64 par Them et reprise ensuite notamment par les Doors, Jimi Hendrix ou encore Patti Smith. Le Monde à 18h50, c'est avec Frédéric Saïs cette semaine.
Christelle Robière. Le 18-20.
Frédéric, les ministres européens des Affaires étrangères sont réunis en ce moment en visioconférence, réunion en urgence pour évoquer les risques d'escalade après les frappes de l'Iran contre Israël ce week-end. Depuis le 7 octobre et les attaques du Hamas, l'Europe peine à parler d'une seule voix sur la question du Proche-Orient. Parmi les pays qui s'affichent le plus ouvertement pro-palestinien, il y a l'Espagne. Et Frédéric, vous avez cherché à comprendre pourquoi.
Oui, l'Espagne qui compte reconnaître officiellement l'État de Palestine d'ici au 1er juillet prochain, annonce récente du chef du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sanchez. Madrid se place ainsi en tête des pays européens les plus pro-palestiniens. C'est le seul à donner une date butoir pour cette décision historique. Même l'Irlande, pourtant traditionnellement très proche de la cause palestinienne au nom d'un imaginaire commun de lutte anticoloniale, même l'Irlande donc ne s'avance pas aussi loin que l'Espagne. Un autre espagnol se distingue d'ailleurs en faveur des Palestiniens, Josep Borrell, le haut représentant européen pour les affaires étrangères, c'est-à-dire la voix de la diplomatie européenne, parle de Gaza comme d'un cimetière à ciel ouvert. Cet ancien chef de la diplomatie espagnole, socialiste lui aussi, appelle à ne pas oublier la guerre à Gaza, occultée derrière les affrontements entre l'Iran et Israël.
Alors comment expliquer ce positionnement pro-palestinien de l'Espagne ?
Alors Madrid a toujours eu une politique arabe très assumée, au-delà des alternances politiques. C'était le cas, y compris Christelle, sous le régime de Franco. Aujourd'hui, en Espagne, la reconnaissance d'un État palestinien suscite un relatif consensus. Cette proposition figure d'ailleurs aussi dans le programme de la droite, les conservateurs du Parti populaire. Mais l'actuel Premier ministre, Pedro Sanchez, a décidé de renforcer encore cette tendance. Ces dernières années, il s'est rapproché du Maroc pour tourner la page de relations tendues à cause de l'immigration illégale. Il s'est lancé dans une tournée au Proche et au Moyen-Orient il y a 2 semaines, étape en Jordanie, en Arabie Saoudite, au Qatar, où il a réitéré sa volonté de reconnaître l'État palestinien dès que possible, a-t-il promis sur Al Jazeera, la chaîne qatari. Au risque de se brouiller durablement avec Israël, en novembre dernier, le gouvernement israélien avait d'ailleurs rappelé son ambassadrice en Espagne, protestation diplomatique après que Pedro Sanchez a accusé l'armée israélienne de commettre une tuerie aveugle de civils. Fin de citation.
Et ce positionnement pro-palestinien du gouvernement de Madrid s'explique aussi par la politique intérieure espagnole.
Oui, Pedro Sanchez, le socialiste, dispose d'une très courte majorité au Parlement. Majorité de briques et de brocs soutenue par des indépendantistes catalans et basques et surtout par un mouvement de gauche radicale qui s'appelle Sumar. Or, ce mouvement, lui, est beaucoup plus offensif contre la politique israélienne. Il appelle carrément à rompre les relations diplomatiques. Pour le Premier ministre Pedro Sanchez, c'est donc une manière de rassembler sa majorité. Sa diplomatie pro-palestinienne lui assure le soutien de ses turbulents alliés.
Pendant ce temps, l'Allemagne, elle, se tient fermement aux côtés d'Israël.
Et une fois que vous avez dit ça, on comprend pourquoi l'Union européenne peine à peser sur le cours des événements au Proche-Orient. L'Espagne, soutenue par l'Irlande, la Belgique, la Slovénie et Malte, veut reconnaître l'État palestinien à court terme, quitte à se passer de tout consensus parmi les 27. Un bras de fer que même les légendaires capacités de compromis de l'Union européenne vont avoir du mal à éviter.
Merci Frédéric, à demain. Le mardi, c'est Caroline au pays des 27, on reste en Europe, hein, avec un nouveau personnage ce soir.
France Inter. Le 18-20.
Evelyne Gillet, vous continuez donc à explorer consciencieusement les bureaux des institutions européennes à la rencontre de leurs occupants.
Oui, et la semaine dernière, on parlait avec Laura Vérec, qui alerte sur le pouvoir des lobbies à Bruxelles. Elle m'avait dit qu'il y a une institution européenne, et en particulier une femme à sa tête, qui l'aide dans son travail sur les questions de transparence, la médiatrice de l'UE, Emily O'Reilly. Elle est irlandaise, elle termine son deuxième mandat. On n'a pas réussi à obtenir de rendez-vous avec elle, mais on nous a proposé de rencontrer une de ses enquêtrices, Amandine Lebelec, à 29 ans, et elle m'attend devant l'immeuble.
Un petit tour à la sécurité. Je suis toujours contente de venir dans des bâtiments que je ne connais pas, ici par exemple, je ne suis jamais venue.
Près de la place Jourdan, vous pouvez prendre... une bière, vous pouvez manger des frites.
Très bonnes frites. Les meilleures frites de Bruxelles.
C'est un débat, mais elles sont bonnes.
Amandine essaye de me faire rentrer dans les bureaux. C'est pas simple.
Vous l'attendez là, peut-être ou...
Une belle machine pour scanner les bagages. Et Amandine est nouvelle ici, donc elle connaît peut-être pas encore les procédures. Elle est habillée avec un chemisier fleuri, je la vois par la fenêtre là. Jupe noire en cuir.
Ma carte d'identité est géniale, je l'ai amenée exprès.
Elle regarde ma carte avec la dame de la sécurité. Ils utilisent un outil qui ne marche pas. Elle dit c'est pas grave, tant pis.
En attendant alors, je vous propose de revenir aux frites. Quand j'étais ado, c'était effectivement les frites Place Jourdan, la maison Antoine, qui était au sommet des classements. Je découvre, pour vous en dire plus, qu'elle a été fondée en 1948 par Antoine de Smet et son épouse, dont le prénom n'est pas précisé.
La dame de la sécurité se tourne pour essayer de voir si son collègue peut aider. Amandine Lebelec lève la tête et me regarde en souriant.
Ils étaient forains, ils en avaient marre de se déplacer de foire en foire, alors ils ont décidé de s'installer là pour de bon. Évidemment, leurs frites sont coupées le matin même et cuites deux fois, et il y a une dizaine de sauces au choix.
Ah, elles se sont trouvées sur l'ordinateur. Elle plisse les yeux pour bien regarder. Le supérieur est arrivé pour contrôler tout ça. On sort des documents. Un autocollant pour me donner un badge. Chouette, j'adore les badges.
Oh là là, super.
Quand enfin je reçois mon badge, il est indiqué pour le 50 avril 2024.
Je sais pas quand est-ce que c'est.
On monte au deuxième étage. Amandine fait partie d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'enquête, beaucoup de juristes. Elle travaille dans un open space avec une Finlandaise, un Polonais et une Néerlandaise. Là, ils sont tous partis déjeuner. Le médiateur européen existe depuis le traité de Maastricht en 1992. Voilà ce que je lis. Le médiateur européen, en l'occurrence pour le moment une médiatrice, enquête de manière indépendante sur les cas de mauvaise administration de la part des institutions de l'Union européenne. C'est-à-dire les infractions à la loi, les conflits d'intérêts, problèmes de transparence, atteinte aux droits de l'homme. Pour ouvrir une enquête, deux possibilités. À la suite d'une plainte envoyée via le site par un citoyen, une association ou une entreprise, ou à l'initiative de la médiatrice elle-même. Je demande à Amandine quelles répercussions peuvent avoir ces enquêtes.
C'est intéressant parce qu'on n'est pas une cour, on n'est pas un tribunal. Les décisions de la médiatrice ne sont pas contraignantes. Ceci étant, nos derniers résultats, je crois que c'était pour 2022, c'est que dans 80% des cas, les institutions ont accepté les recommandations ou les solutions proposées par la médiatrice. Le fait de ne pas être un tribunal, ça nous donne aussi une certaine liberté, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec le droit, comme tous les gens dans les institutions européennes. Hein. Mais on ne va pas s'intéresser uniquement à ce qui est légal, on va aussi s'intéresser quelque part à ce qui est juste. Et ça, ce n'est pas forcément exactement la même chose. Voyez,
vous avez un exemple ?
Oui, un très bon exemple. Donc une enquête qui portait sur l'agence des gardes frontières et gardes-côtes européennes, donc Frontex. Donc c'est une enquête sur le rôle de Frontex dans le naufrage d'un bateau de demandeurs d'asile l'été dernier. Donc il y a quand même eu, il me semble, 600 morts. J'ai notamment des collègues qui ont pu reconstituer minute par minute en fait le déroulé de cette journée-là à Frontex. La conclusion de la médiatrice dans cette enquête, c'est une conclusion pas manichéenne puisqu'elle dit Frontex était en conformité avec ses obligations légales. Donc peut-être que si, quand on est en conformité avec ses obligations légales, et que malgré tout, il y a 600 personnes qui coulent, alors peut-être qu'il faut changer les obligations légales.
Et si Amandine cite en exemple ce cas de Frontex, c'est sans doute parce qu'elle est très attentive aux droits des réfugiés. Elle a fait sa thèse sur le droit des personnes réfugiées LGBT. Elle vient d'une famille de 4 filles, elle a grandi à La Réunion, auprès de parents spécialistes en fruits tropicaux.
Alors, on a fait beaucoup de jardins botaniques.
Et Amandine avait commencé à militer pour la cause LGBT après les débats du mariage pour tous.
C'est un peu rude.
Bon, on regarde le site de la médiatrice et comment déposer une plainte.
Il y a une explication déjà de qu'est-ce que c'est la mauvaise administration. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Donc il y a aussi une explication de comment ça se passe, étape par étape.
Voilà ce qu'il faut envoyer.
C'est détaillé sur le site web, s'il y a des gens qui, suite à cette émission, souhaitent soumettre une plainte. Et donc,
si vous le faites, dites que vous venez de notre part Quand on lui assigne une plainte, Amandine commence un véritable travail d'enquête.
Donc là, ça veut dire, voilà, je demande à telle institution de m'envoyer les documents sur ce sujet-là qu'elle possède en interne. Ça peut être aussi des échanges de mails, etc., pour comprendre comment quelque chose s'est passé.
Le travail de la médiatrice actuelle, Emily O'Reilly, est salué par beaucoup. Elle n'a pas eu peur de lancer des enquêtes audacieuses.
La médiatrice est nommée par le Parlement européen. Donc forcément, les élections et la composition du Parlement va avoir un effet.
Il y a donc un vrai enjeu pour la désignation de la personne qui lui succédera. Voilà, merci à Lison Chambe et Marie Kévin pour leur aide sur cette chronique.
Et une petite question quand même, Caroline, vous devez commencer à avoir une sacrée collection de badges.
Ah, effectivement, je les garde tous.
J'espère bien, vous nous les montrerez à mardi. Oui, le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Éric Delvaux, puis le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20, et on parle de mémoire ce soir.
Oui, Emmanuel Macron, on l'a vu dans le Vercors aujourd'hui, présider une cérémonie qui lance une série de commémorations pour les 80 ans de la libération de la France. Alors il y a ces commémorations officielles, l'histoire tout court, la mémoire qu'on doit faire vivre. Andreas, par mail, en tant qu'Allemand installé à Grenoble, je me sens particulièrement sensible à l'histoire de tous ces hauts lieux de la résistance. Je ne peux qu'espérer que ces cérémonies aident à mieux contenir cette folie guerrière du monde. Mais j'avoue avoir des doutes. Les humains semblent incapables d'apprendre même de leurs pires erreurs.
Un numéro téléphoné sur WhatsApp 01 45 24 7000.